à toutes et bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour en Corrèze pour se balader entre les événements sportifs, culturels et festifs. En première partie d'émission, Céline Audruchy, chargée de communication du Musée d'art contemporain de Meymac et coordinatrice du festival Les Printemps de Haute-Corrèze, nous parlera de la programmation de cette 20e édition. Le trail Mille Vaches Monédières se lance dans sa 12e édition, lui. Frédéric et François Desproges seront en ligne avec nous pour nous parler de cette aventure et de ce qu'elle vous réserve. À 13h30, vous entendrez le journal régional du Graal et en deuxième partie d'émission, vous retrouverez la chronique 100% Occitane de Michel Feltin-Palas et Radio Pays. Et depuis début mars, le musée de Rochechouart accueille une nouvelle exposition. Fait que ton rêve soit plus long que la nuit, ce sont 25 artistes internationaux dont les travaux seront regroupés jusqu'au 11 juin et c'est le sujet de la chronique en Limousin. Vous l'entendrez à 13h50. Et puis à 13h55, Isabelle vous donnera la météo de demain. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Bonjour Céline Audruchy.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication au Centre d'art contemporain de Meymac qui coordonne les Printemps de Haute-Corrèze dont la 20e édition va se dérouler le 16 et le 30 avril. C'est la 20e édition, on l'a dit. Elle sera autour des Pays-Bas et la mobilité en Haute-Corrèze. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler ce que sont les Printemps de Haute-Corrèze ?
Alors oui, les Printemps de Haute-Corrèze, c'est un festival qui a été initié en 2004 par le Centre d'art contemporain de Meymac. Parce qu'en fait, une des missions des centres d'art est d'animer en fait, le territoire et donc de proposer des événements avec des structures culturelles locales. Donc l'idée en 2004 a été de proposer un festival sur une thématique qui était à l'origine la Chine, puisque c'était l'année de la Chine en France, et d'essayer comme ça chaque année de rebondir soit sur des thématiques alliant les pays étrangers, soit sur une thématique en se resserrant un petit peu plus sur le local, et donc de proposer avec des structures partenaires des événements à dimension culturelle.
Cette 20e édition sera donc sur les Pays-Bas, une thématique que vous aviez choisie et qui malheureusement a été avortée, alors plus ou moins vous aviez trouvé d'autres parades pour cause de confinement. Vous avez donc décidé de remettre cette thématique à l'honneur cette année.
Oui, c'est vrai, la thématique, le festival avait dû être annulé. Donc nous avions pris, comme tout le monde, le biais de faire des choses sur Internet avec la page Facebook, mais en toute très, très petite mesure. Et donc nous avons décidé de réitérer cette année et d'y accoler aussi une autre question qui est celle de la mobilité. Les Pays-Bas, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de Néerlandais qui sont installés en France, mais en Corrèze et puis là, plus largement, en Dordogne. Donc l'idée était aussi de faire connaître la création néerlandaise par différents biais. Musique, danse, je dis danse, mais il n'y a pas de danse. Musique, création plastique, autre chose. Et de faire découvrir cette création-là.
Et donc, vous l'avez dit, la mobilité en Haute-Corrèze est votre deuxième thématique. Comment s'articule cette édition autour de ce thème ?
Alors, on a changé un petit peu la donne, c'est-à-dire qu'habituellement, le public était habitué à un temps long de festival, sur un mois et demi. Et donc, avec cette édition renouvelée des Pays-Bas, on ne voulait pas refaire ce qui avait plus ou moins été prévu. Donc, on a décidé d'axer sur deux temps forts, deux dimanches, puisque le public le dimanche est un peu plus libre. Et donc, on a associé cette thématique mobilité pour proposer des parcours à vélo. Donc, en fait, il y aura trois parcours. Deux parcours à vélo et un parcours à pied pour découvrir, avec un vélo à assistance électrique, la mobilité en Haute-Corrèze, donc découvrir le patrimoine local, et y accoler des pauses culturelles dans des structures participantes pour découvrir la création des Pays-Bas.
Alors on va parler de cette programmation qui est riche et variée. Tout d'abord, on peut peut-être parler des structures qui participent à cet événement.
Alors oui, donc, plusieurs structures se sont associées. Donc il y aura deux grands parcours, un parcours le 16 avril autour des Gletons et un parcours le 30 avril autour de Meymac. Donc à Égletons, principalement donc la mairie qui a un partenaire qui a plusieurs structures, le centre de découverte du Moyen-Âge, il y a aussi le cinéma qui participe, les accueils de loisirs de la communauté de communes. On a aussi une association qui s'appelle Pignon sur rue qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait un an et demi.
C'est quoi comme association ?
Alors c'est en fait un atelier associatif dédié au vélo qui propose à la fois des outils, qui propose d'aider en cas de panne, de montrer comment ça fonctionne, qui est tenu par des bénévoles et un salarié et qui met aussi à disposition des vélos. On peut faire des essais, on peut venir avec son vélo, c'est assez pratique. Donc l'idée c'était de faire découvrir cet atelier qui commence à être connu, mais voilà, on peut... Histoire de, comme on est sur la thématique aussi de la mobilité, ben voilà, on peut aller se balader et le mieux c'est d'aller faire vérifier son vélo avant de partir en balade.
La Microfolie d'Égletons est un partenaire aussi de cet événement.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai dit le centre de découverte du Moyen-Âge, en fait c'est eux qui gèrent la Microfolie. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une Microfolie, mais voilà, il faut savoir que les Microfolies, il y en a plusieurs partout en France, mais dans le monde aussi. C'est le parc de la Villette avec le ministère de la Culture qui a édifié ce projet, qui est en fait une porte d'entrée... à tous les musées du monde. Il y a plusieurs collections. On retrouve à peu près 5000 œuvres des collections des grands musées, Pompidou, l'Institut du Monde Arabe, Versailles. Et donc, ça permet de découvrir voilà, des œuvres différemment. Donc, notamment au CDMA, on pourra, en fait, il y aura un petit quiz qui sera mis en place sur le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, donc, qui est un peintre primitif flamand, donc néerlandais. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir... en fait, ce tableau-là, il est au Musée du Prado à Madrid. Donc, pour aller le voir, ben voilà, il faut prendre... C'est un peu compliqué.
Surtout
donc,
en vélo.
Voilà. ça se fait, hein, mais c'est long. Il faut avoir du temps, des vacances. Mais voilà, l'idée, c'est de découvrir ce tableau qui est extraordinaire. Hein. C'est un triptyque qui est une huile sur bois qui a été réalisée entre 1495 et 1505, qui fourmille de détails, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, l'idée, c'est de faire comme un petit quiz, un cherche et trouve. Donc, on voit le triptyque en entier. Et puis après, on va zoomer sur des pages, un peu comme on fait dans Où est Charlie. Ben voilà, l'idée, ce sera d'aller retrouver des choses symboliques, voilà, pour...
Oui, parce que l'objet, enfin la manière de visiter ces œuvres, donc cette immense collection d'œuvres, c'est par un biais numérique. C'est soit via des écrans, soit une réalité virtuelle, me semble-t-il.
Alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les écrans. Il y a un grand écran en fait, et ensuite il y a des tablettes. Donc on peut aussi choisir, par exemple, quelque chose nous plaît sur l'écran. On peut décider de zoomer via le biais de la tablette. Et après, en effet, il y a d'autres options dans ces musées, ces microfolies. Il y a aussi les options réalité augmentée, mais il y a aussi des impressions, imprimantes 3D, en fonction des ateliers qu'on choisit d'intégrer ou pas dans sa microfolie.
Donc ça, c'est plutôt sur le parcours d'Égletons, qui sera le dimanche 16 avril de 10h à 17h, donc c'est Égletons et alentour. Et puis il y a le dimanche 30 avril de 13h à 22h, et là c'est à Meymac et alentour. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation de cette deuxième journée des printemps de Haute-Corrèze ?
Alors oui, donc la programmation démarre donc, au Centre d'art de Meymac, puisque nous proposons une exposition, donc, comme je vous le disais, sur la création néerlandaise, à la fois peinture, sculpture, vidéo, un petit peu toutes les thématiques comme on a l'habitude de le faire. L'idée en fait c'est de présenter un panorama à un instant T de la création. Et le centre d'art est situé dans l'abbaye, donc on a de très grandes salles. Donc en fait, on répartit un petit peu par chapitre. Un dédié plus à tout ce qui est culture pop, des choses très colorées. Un plutôt dédié à la sculpture, mais avec de la sculpture aussi qui s'accroche. Un dédié à ce qu'on appelle les natures mortes, les écorchés, etc., pour montrer un petit peu ce qu'est cette création. Est-ce que la création néerlandaise est différente de la création française ? Et on se rend compte que oui, finalement, qu'il y a des héritages à la fois de la peinture. Il y a une très grande exposition Vermeer en ce moment à Amsterdam. Et on se rend compte qu'il y a cet héritage des peintres flamands, de Jérôme Bosch, de voilà.
Qui ont beaucoup fréquenté la France aussi à l'époque.
Oui, exactement. Mais il y a cet héritage aussi. C'est un pays qui était protestant. Et on ressent un peu peut-être cette raideur, cette froideur, ce qui n'est pas pour autant inintéressant. Hein. Le travail de la lumière aussi, c'est un pays qui est très, très lumineux. Donc le travail de la lumière, de la fenêtre, il y a énormément de choses et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc on aura une visite commentée de cette exposition. Et puis en plus, ensuite, on prendra donc son vélo, soit assistance électrique. Alors on peut venir aussi avec son propre vélo. On a travaillé pour les deux parcours avec les stations Sport Nature. Donc à Égletons, plutôt avec la station Sport Nature de Marciac la Croisille, et à Mémac, plutôt avec celle du Sel. Et donc on prend son vélo. Donc certains partent donc en vélo pour découvrir le patrimoine local. D'autres partent à pied. Et on va faire comme ça une petite pause à la Maison sur la Place, qui est une association qui a ouvert à Ambouja aussi assez récemment. Et là, on aura un concert avec un groupe qui s'appelle, alors je m'excuse pour la prononciation, Phoebe Z Guest. Je ne suis pas très au fait, mais voilà, qui est composé d'une chanteuse qui s'appelle Betty Keeper et d'un guitariste et d'un batteur. Donc voilà, son un peu rock par moment, donc assez rythmé comme ça, et puis d'autres un peu plus jazzy, ambiance, voilà, mélopée, lascive, donc assez chouette. Et ensuite, on reprend son vélo ou on se remet en route avec les pieds, et on revient à Mémac pour un film qui est plutôt un documentaire sur Copyright Van Gogh. En fait, il faut savoir qu'en Chine, dans la province de Shenzhen, il y a un village qui était avant les années 90, un village de paysans. Et puis ça s'est industrialisé très vite. Et en fait, la moitié de ces paysans sont devenus des copistes. Donc en fait, ils peignent. Ils font des copies de grands tableaux de
sorte de faussaire un peu.
Exactement, mais officiels en fait. Et ensuite, ces tableaux, donc principalement là, ce qui nous intéresse, c'était Van Gogh. Donc on suit en fait, il y a un homme avec sa famille, donc qui fait des copies à longueur de journée, qui voit des photos, qui s'aide de photos, de choses qu'il voit sur Internet. Et il fait de nombreuses copies. Et lui, en fait, ce qu'il rêve de faire, c'est de partir aux Pays-Bas, justement pour voir en vrai un Van Gogh, parce qu'en fait il en fait tellement, et il fait de par semaine, ça peut être de 500 à 700 tableaux, donc c'est complètement dingue. En fait, ils ne vivent que de ça, ils vivent là où ils travaillent, enfin c'est les conditions aussi que ça peut être de travailler en Chine.
Mais ça, c'est toujours d'actualité?
C'est toujours d'actualité, oui.
Donc c'est un documentaire sur ces personnes.
Voilà, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2021, donc c'est vraiment... Et donc lui, ben, ne rêve que d'une chose, c'est de partir, parce qu'en fait, il peint Van Gogh, il vit Van Gogh, il rêve Van Gogh, et donc il a envie de se dire qu'est-ce que ça fait de voir un tableau en direct, est-ce que je vais ressentir les émotions de Vincent Van Gogh, est-ce que... Voilà, donc on suit un petit peu le périple de cette personne.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant les printemps de Haute-Corrèze, ou si on souhaite vous contacter pour avoir des informations, réservation éventuellement?
Alors oui, réservation obligatoire en fait, puisque que l'on vienne finalement avec son vélo ou que l'on emprunte, qu'on loue un vélo par le biais du festival, on a une contingence de places pour des raisons de sécurité. Donc à la fois, il faut avoir les tailles disponibles. Donc on a déjà eu des réservations, donc toutes les tailles ne sont plus disponibles. Donc voilà, les premiers qui appellent sont les mieux servis. donc réservation obligatoire, donc au centre d'art en fait. Donc il faut appeler au centre d'art, ou alors regarder aussi sur le blog du festival. Grosso modo, il y a un forfait visite. Donc si on vient avec son vélo personnel ou si on fait le parcours à pied, c'est 10 € le bloc. À Égletons, il faut amener son pique-nique, et à Mémac, il y aura un food truck sur place. Et si on prend le vélo en plus, c'est 15 €.
Merci infiniment Céline Audruchy. Je rappelle que vous êtes chargée de communication du Centre d'art contemporain de Mémac, qui organise donc les printemps de Haute-Corrèze, qui se déroulent les 16 et 30 avril prochains à Égletons et à Mémac. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invitée. I'm not sure.
Joub avec le titre Vache, Joub qui sera en concert demain soir à Tulle. Et son titre est d'autant plus approprié que toutes les parties instrumentales de cette chanson, et vous l'avez peut-être entendu, viennent d'un vélo qu'il a métamorphosé en instrument, la basse étant sur des cordes tendues sur le cadre de son vélo. Il faut le voir pour le croire et je vous invite bien sûr à vous rendre demain soir à partir de 18h à la Magic Hour à la salle Des Lendemains qui chantent, c'est gratuit. Et c'est aussi un moment pour rencontrer Joub autour d'un verre de jus de fruits pour se détendre.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Bonjour Frédéric et François Desproges, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes les organisateurs, enfin vous faites partie des organisateurs du trail 1000 vaches monédières qui se déroulera le samedi 22 avril sur le parcours Trégnac-Bugeat, c'est la 12e édition. Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette année ?
Alors cette édition, bonjour tout d'abord. Alors cette édition a beaucoup de nouveautés. Dans un premier temps, elle part de Trégnac et puis elle se termine à Bugeat, en passant par les Monédières, sur un parcours de 51 km. Ce parcours aura lieu le championnat régional de trail sur 50 km. Ensuite, il y a un 25 km qui part de Pradines, où il y aura 1200 mètres de dénivelé positif. Et enfin, il y a un parcours de 13 km, c'est une boucle autour de Bugeat, qui accueillera le championnat régional de Canitrail.
Qu'est-ce que c'est ?
Le Canitrail, c'est de la course où on court avec son chien. Il est au bout d'une laisse, d'une corde, je ne sais pas comment on dit, d'environ 3 mètres, et on fait la course ainsi.
Alors, vous l'avez dit, le départ du trail se fait dans le centre-ville de Trégnac. Et cette année, il y aura donc un décor naturel, évidemment, mais un décor médiéval aussi.
Oui, puisqu'on part, on traverse tout le vieux Trégnac, donc qui est assez pittoresque. Et puis après, on traverse le village de Pradines. On connaît pas bien Pradines, pourtant c'est très joli, avec des maisons, avec une architecture qui est vraiment à voir. Donc pour arriver après à Bugeat.
Un parcours quand même assez exigeant en termes de technicité. Comment ça se place ?
Alors il est exigeant le parcours, effectivement. De Trégnac à Pradines, vous avez 25 km. Sur ces 25 km, il y a 1200 mètres de dénivelé. Mais ces 1200 mètres, eh bien, il y en a les deux tiers qui sont concentrés sur les monnaies d'hier, c'est-à-dire sur les 10 premiers kilomètres. Il y a 850 mètres de dénivelé positif, ce qui est beaucoup. Et sur la deuxième partie, qui fait aussi 25 kilomètres, eh bien, vous avez également 1200 mètres. Mais là, il n'y a pas de gros sommet, il n'y a rien du tout. Par contre, il n'y a pas de plat. Ça fait que monter et descendre tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et puis, il y a moins de 10% de route, 40% de portions single, on dit ?
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Eh bien, on passe dans les prés, dans les packages, dans les bois.
Donc en pleine nature.
En pleine nature.
Et 50% de chemin, donc, si mes calculs sont bons.
Voilà.
Alors, vous avez une équipe très large. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe de bénévoles ?
Oui, alors je vais en parler. Donc, je suis Frédéric, bonjour. Effectivement, on a une équipe de 100 bénévoles. Bon, à la base, il y a une quinzaine de personnes qui ont vraiment leurs tâches particulières à accomplir. Il y en a sur le parcours, il y en a d'autres qui s'occupent des inscriptions, il y en a qui s'occupent de la sécurité. Mais au total, on est obligé de déléguer un maximum et il nous faut donc une centaine de personnes sur le parcours, parce qu'il y a la sécurité, il y a les ravitaillements. Et donc, à ce titre, on a besoin de rassembler toutes les forces locales. Voilà. Donc, bien souvent, les bénévoles, c'est pas toujours évident à trouver, surtout dans nos localités, mais on arrive quand même, depuis 12 ans, sans problème à fédérer et à réunir le nombre suffisant de bénévoles pour la manifestation.
Alors, est-ce que les bénévoles viennent du coin ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent de plus loin ?
Oui, essentiellement du coin, de Bugeat et de Trégnac. Trégnac, lieu de départ, et Bugeat, lieu d'arrivée. Et puis, il y a également des gens qui seront présents à l'occasion des connaissances, à l'occasion d'un séjour sur le secteur, et qui amènent leur contribution.
Et puis, en parlant aussi de gens du coin, place au local. Le 1000 vaches monnaie trail, c'est aussi valoriser votre territoire. Et chaque participant recevra avec son dossard des produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment attachés à valoriser notre territoire. Donc les produits locaux, eh ben, ce sera de la bière de Chamboulive, de la confiture de myrtille des Monédières, de la charcuterie de Saint-Hériel-des-Jalas, voilà. Et puis, une particularité cette année, c'est qu'on a un restaurant qui s'appelle l'établissement à Bugeat, qui a été repris par trois jeunes là il y a 2 ans. Eh ben, c'est eux qui, tout l'après-midi, seront installés sur la place de l'église à l'arrivée et vont faire des burgers avec des cornets de frites, de charcuterie ou de fromage. Voilà. Et il y aura aussi des produits locaux qui seront à vendre. Il y aura également des stands avec des auteurs, des écrivains locaux qui vont faire des dédicaces. Et puis un stand de Renault Dacia qui va présenter et valoriser en particulier la dernière voiture électrique et proposer des essais.
Enfin, en parlant de voitures électriques et d'environnement, il me semble quand même que c'est aussi un des points que vous voulez aborder et mettre en avant, c'est aussi le respect de l'environnement dans lequel va se dérouler ce trail.
Tout à fait. Notre devise, c'est pas de bruit, pas de trace. C'est-à-dire que pendant le trail, y a pas de bruit. C'est vrai qu'on n'est pas tellement tenté à chanter lorsqu'on est dans les molédières. Et puis le pas de trace, c'est que il a lieu fin avril et la végétation, elle commence juste à pousser. De sorte qu'un mois après, eh ben, les fougères ont poussé, les ronces, etc. Et n'y a plus de traces. Voilà. Et on est aussi partenaire avec le parc naturel régional dans ce cadre-là, justement, pour bien faire attention et avoir une démarche éco-environnementale.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le programme de ce samedi 22 avril 2023 qui arrive à grands pas ?
Alors le programme commence à 9h le matin avec une randonnée de 13 km, donc ouverte à tous. À 9h30, c'est le départ à Trégnac du 51 km. À 11h, c'est le départ du Caddie Trail à Bugeat. Alors là, c'est intéressant, le départ mérite d'être vu parce que c'est vraiment spectaculaire. Ensuite, à midi, c'est le départ du 25 km à Pradines. Et à 14h, c'est le départ du trail de 13 km à Bugeat. Et tout ce beau monde eh ben, arrive à partir de 14h30 à Bugeat jusqu'à 18 ou 19h.
À 18h, un petit apéro à consommer avec modération.
Voilà.
Et à 20h30, un repas suivi d'une soirée dansante à la salle polyvalente de Bugeat. Est-ce que vous pouvez nous redonner toutes les informations où on peut retrouver les informations pour éventuellement s'inscrire pour le cabotrail ou le trail ou même des contacts, site internet?
Oui, alors pour compléter juste avant, la veille, le vendredi soir, il y a une pasta party. C'est une tradition un petit peu dans les courses longues. Pour les gens qui viennent de loin, de faire un dernier repas avec des sucres lents et tout ça, au centre sportif à Bugeat, c'est sur réservation. Et puis la crêperie de Le Mille Vaches à Bugeat fait aussi un repas dans ce sens-là. Alors pour s'inscrire, c'est pas compliqué, c'est le site mmrt.fr, c'est le site de notre association où vous avez tous les éléments.
Donc c'est Mille Vaches Monédières, le R c'est quoi ?
C'est Red Light, qui était notre partenaire principal jusqu'à il y a quelques années.
D'accord.
Qui est toujours notre partenaire, mais ben voilà, les partenariats se sont étoffés, et donc c'est devenu le Mille Vaches Monédières Trail.
D'accord, et où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement des numéros de téléphone, vers qui se tourner s'il y a certaines personnes qui souhaitent vous contacter directement ?
Ils sont, leur téléphone est sur le site.
Très bien. Merci voilà. Infiniment d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. François et Frédéric Desproges, vous êtes les organisateurs, membres, on va dire, c'est vous qui êtes à l'initiative de cet événement qui va fêter donc sa 12e année, le Mille Vaches Monédières Trail. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes ici avec Avermarie.
Et dans quelques instants, nous poursuivons notre émission avec de la musique, des événements et de l'Occitan. Je vous en dis pas plus, restez bien à l'écoute. Il est 13h30 sur Bram FM et c'est votre rendez-vous avec le journal régional du Graal.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres.
Lucie Montibus. Bonjour à tous. L'information régionale de ce mercredi 5 avril 2023. Anne Frakowiak-Jacobs a été nommée préfète de la Creuse le 15 mars dernier. Elle est installée depuis lundi. Elle se dit ravie de prendre son poste dans un territoire rural.
C'était en effet une excellente surprise parce que je souhaitais absolument avoir un petit département rural dans lequel il y a une vraie proximité avec le territoire. Et donc, je suis absolument ravie d'avoir été nommée dans la Creuse. Le dossier qui est sur le haut de la pile, c'est en effet le plan particulier pour la Creuse, puisque les négociations pour le nouveau plan sont en cours. Donc, c'est un sujet urgent à régler et à discuter avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Des propos recueillis par Anne-Laure Lejolif pour RPG. Dimanche dernier, 184 membres de la Convention citoyenne ont validé le rapport final sur la fin de vie avec 81 propositions. Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, était en déplacement à Limoges. Il est en partie à l'origine de la création de la Journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Pour l'adjoint à la mairie de Paris, ce rapport pourrait apporter des avancées notables pour la loi à venir.
Ce rapport, il a dépassé mes espérances parce que d'abord il a montré que ce qu'on dit depuis longtemps, que les Français sont en faveur d'une autre loi, ils l'ont prouvé puisque d'abord le rapport a été voté à 92%. Et la légalisation de l'aide active à mourir à plus de 74 ou 75%. Donc je pense que ce rapport ne peut que satisfaire. Il demande l'accès universel aux soins palliatifs, on demande ça tous depuis longtemps. Et de l'autre côté, la légalisation de l'aide active à mourir. Donc moi je suis satisfait, maintenant on va voir ce qu'en va en faire le président. Hier il a annoncé qu'il voulait faire un modèle à la française. Moi je suis très surpris. Moi je trouve qu'il faut juste copier ce qui se passe ailleurs. Ça fait 20 ans qu'à côté en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, ils ont des exemples qui fonctionnent. Il ne faut pas avoir honte de copier, même s'ils paraissent des pays plus petits que nous, parfois ils ont des idées qui sont meilleures que les nôtres.
Des propos recueillis par Aymeric Viollet. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé qu'un projet de loi verrait le jour d'ici l'été. En Corrèze, l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne vient de recevoir une certification pour la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. C'est Airport Carbon Accréditation, un organisme international indépendant, qui lui accorde le niveau 2 sur 4. L'établissement s'est déjà engagé depuis un an dans un programme de de réduction des émissions de CO2, à la clé des dépenses énergétiques qui ont diminué de plus de 20%. Environnement toujours, deux capteurs solaires de plus de 4 mètres carrés et un ballon de 300 litres permet d'alimenter la salle polyvalente et la cantine de l'école de Saint-Mathieu en eau chaude. Au cœur du parc naturel régional du Périgord-Limousin, la commune a installé un chauffe-eau thermique. Son fonctionnement est assez simple, comme nous l'explique Jacques Saguez, technicien du syndicat Énergie Haute-Vienne.
Donc on présente un système de chauffe-eau solaire thermique. Donc c'est une installation qui permet de chauffer de l'eau chaude sanitaire. Donc le principe en fait d'un chauffe-eau solaire thermique, ce sont des capteurs en toiture qui vont en fait capter le rayonnement thermique du soleil. On transfère ensuite cette chaleur à un fluide qui rejoint un ballon dans lequel il y a un serpentin et qui permet en fait de chauffer l'eau chaude sanitaire.
Des propos recueillis par Lucie Alix. Cette installation est en service depuis janvier 2012. La production moyenne est de 2040 kWh par an. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou l'ADEME, accompagne les communes dans la transition énergétique. Pour finir en rugby, le CA Brive prolonge Mathis Ferté jusqu'en 2026. À 19 ans, le rugbyman est aussi un des joueurs de l'équipe de France U20 depuis le début de l'année. En signant sa prolongation, il choisit de poursuivre l'aventure avec l'un de ses clubs formateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute des programmes sur votre radio.
Vous êtes ici avec Avermarie.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com où vous pouvez nous écouter en direct ou réécouter toutes nos émissions. On est ensemble jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio à mes côtés Isabelle. Bonjour.
Bonjour Eve. Au cours de sa vie courte mais mouvementée, le trompettiste Lee Morgan a atteint les sommets du jazz en très peu de temps. Il commence ado avec Art Blakey et ses Jazz Messengers, poursuit avec Dizzy Gillespie, Milt Jackson, Bud Powell, enregistre avec Coltrane, etc. Ce parcours fulgurant s'arrête net un soir de 1972 où il est abattu par sa compagne dans un club de New York. Il nous laisse depuis un héritage encore brûlant. Mon titre du jour est Stand By, un morceau de 1957 de son premier album sous son nom, Indeed, avec son quintet composé de donc Lee Morgan à la trompette, Horace Silver au piano, Clarence Sharp au saxophone alto, Wilbur Ware à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Thank you.
Lee Morgan sur Bram FM. Merci beaucoup Isabelle, on te retrouve à 13h55 pour avoir la météo de demain.
Avec Eve, vous êtes ici et sur Bram.
Et que diriez-vous d'une chronique 100% en occitan proposée par Radio Pays et Michel Feltin-Palas ? C'est l'heure de retrouver Sur le bout des langues.
Anem com cada setmana que retrobem ara Michel Feltin-Palas, cap redactor de l'Express, en ta parlar de la seva lettre d'informació sur le bout de langue. Adieu, Michel.
Adieu, je donne adieu, adieu, chatre à tous.
Et donc, aquesta setmana que consacre la tua lettre a eu une série d'étymologies susprenentes qui toquen aux mots ligats à notre attitude, à notre comportement, par exemple, que le cas du mot français méchant.
Et oh, méchant, qui vient du verbe chouar, cadet. Per a l'état méjan, uomi machant, qui désigna avec aucun qui hasait cadet, l'humau, sus los autes. Et puis, drin à drin, qui avait desbrumbat aquel sens, et qui passat à la définition de wei, qui a aucun qui cerco a porta tort ou a provoca désagradament.
Et qui a d'autres mots, t'avais donc un cambiat de sens au breu du temps.
Oh, basrazu, pren l'adjectif nier. Oui, que baudise qu'a au cul des pégotes. Mais au commencement, qu'a eu mout de la fauconorio, implégat en ta designa, ujouen faucun, qui bien des sorties d'unit et que cau desvergugna, en français, de niaise, sortie d'unit. Qu'a la médiche au cause, per lou leur, lou simbeu, en gascou. À l'état de mejano, en guerucop, lou leur, quero utros de cuer da plumos, que sen servibon en ta haturna lu faucun sus lu plugn, et que sun que a conta du seglo quinzao, que va prene lu sense d'apera, d'atira, generalment.
Ecco, a quello che si sprende, dunque, che mentava sta bene con queste etimologie legate alle bestie, che Lucas Dudumut etourdi, per esempio.
Oh, etourdi, che è un adjectif che viene du latin. Turdus, la grive en français, la tourte en gascou. Ouais. Et per qui? Eh bien, per mou en lati, en werukop, l'uberbe exturdire significabo ave l'userbec esturdit, esparburat cumio tourte embriago d'arazims. Caucu desturdit, cae caucu quis comporto cumio tourdo, cae aisit ave de en gascou, cae me complicat en français. Ouais. Que podem parlar també de couar, que empleguem de designar una persona que n'a pas brigo de courage, et bien, aquest mot que vient du latí cauda, la cua, un couar, que era au començament un bestio qui vei en mouchant la sua cua.
Que sembla evident dir de tau, mais que cau saber.
Bon, lleu un petit... Que ja no es diccionari,
eh? Bon, lleu un darrer, en teu plaer, abans de deixar.
Eh bien, ajoute que m'agrado de parler d'outre cuidant, à Funtaire, en gascou. Catas compres que y mout compausat d'ap outre, de mei, mais tabé, cuidant. Et aquest cuidant, que bien du berberati cogitare, pensa, cabaliat en français ancien, cuidier, d'ap l'umédiche sens, pensa, mais tabé, dus aute sens, imagina et crédé à tort. Cuidant, qu'ay lou participi présent des cuidiers et donc caucu d'autres cuidants qu'ay eu personne qui se crête supérieur à ce qui est. Arabes, à ce qui semble qu'il n'y avait déjà d'outens de l'impérie roumane et de l'état de Mejan, mais de tu ajoutes qu'il est possible d'encruzza en guerre de quan en quan. Oui, vous dites.
Le monde qui peut cambier, mais les personnes qui demeurent, d'accord? Oh. Le problème n'est pas quoi. Je vous un grand merci, Michel Feltin-Palas, qui prend bien aux auditeurs la lettre d'information sur le bout de langue, qui est ce qui est piqué sur Internet, et tu as trouvé l'article sensé, puis l'abonnement à gratis, et bien suivant, tu as reçu cada semaine l'article dans la cache de lettres numérique. Et bien, un grand merci, Michel Feltin-Palas, et d'ici à l'autre semaine.
Dink à la haute semaine, d'après, comme tout système.
Sur le bout des langues, la lettre d'information de Michel Feltin-Palas, mise en conversation par Radio Pays. Cette lettre d'information défend les langues régionales et leur nécessité d'être conservées. Retrouvez-la chaque semaine gratuitement. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche sur le bout des langues. Vous rentrez votre adresse mail et vous la recevrez dans votre boîte mail toutes les semaines et en français.
Vous êtes ici avec Aver Marie.
Et si vous n'êtes pas encore inscrit pour Ligue aux Basines, il n'est pas trop tard pour le faire. Je rappelle que c'est une course, des courses et des marches contre le cancer. Rendez-vous le 16 avril prochain au plan d'eau du Coiroux. Comme chaque année, deux courses et deux marches auront lieu avec pour objectif de recueillir des fonds pour financer la lutte contre le cancer. Les bénéfices seront intégralement et directement reversés à notre comité de Corrèze de la Ligue contre le cancer. Donc voilà, il y a des épreuves pour tous. Il y a un circuit de 13 km qui commence à 9h15 et un circuit de 3,6 km pour les marcheurs. Pour les coureurs, il y a un circuit de 7 km et un circuit de 14 km. Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant. Pour les coureurs, inscription sur place, elle sera majorée de 2 €. Et voilà, la Ligue contre le cancer vous invite donc à vous inscrire dès maintenant sur le lien de la page Ligue aux Basines, donc c'est okaytime.fr, compétition Ligue aux Basines 2023. Des ravitaillements seront offerts sur le parcours et un casse-croûte sera offert à l'arrivée. A noter que les inscriptions sur place seront possibles dès 8h. N'hésitez pas donc à joindre la Ligue aux Basines pour plus d'informations ou alors rendez-vous sur le site internet ligueauxbasines.fr. Je rappelle aussi que cet après-midi de 14h à 19h à la salle d'Atreille, il y a le don du sang, comptez 45 minutes, dont 10 pour le don. Plus d'infos sur dondesang.efs.santé.fr. Ce soir à 18h, c'est le vernissage de l'exposition Le Monde d'après de Zach Deloupi, qui a confectionné le programme de la salle des lendemains qui chante hein, pour la programmation à venir. N'hésitez pas donc à aller voir cette exposition. C'est au cinéma VO. L'exposition sera à voir du 5 au 22 avril. Voilà, comme nous tous, enfin le petit communiqué, c'est comme nous tous, Zach Deloupi a été sidéré d'être obligé de se confiner à cause de ce virus venu de loin, avec l'arrêt des activités normales. Pour ne pas subir, Zach Deloupi s'est mis au dessin. Pour conjurer le sort, peut-être, tous les jours, il réalise un dessin et le monde de Covidland se crée. Quelques semaines plus tard, les dessins se font beaucoup plus politiques. L'actualité et la crise sanitaire y sont décrites de façon explosive. Le monde d'après se crée devant nos yeux, étonnés, surpris. Tous ces dessins reçoivent un accueil positif sur les réseaux sociaux. Ils incitent au débat et à la réflexion. 24 dessins sont choisis pour composer cette exposition, regroupés par deux, sans ordre chronologique. 12 panneaux composent l'exposition, plus un panneau d'introduction. Voilà, donc l'expo, c'est au cinéma VO du 5 au 22 avril. Et ce soir, c'est donc le vernissage de l'exposition. C'est gratuit, c'est à partir de 18h. Et puis, il y aura aussi la soirée. Dans la soirée, il y aura aussi toute l'annonce du programme à venir pour la salle des lendemains qui chantent. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à réécouter l'émission d'hier. Benoît Môme était mon invité. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bram FM. Dans 5 minutes, Isabelle sera à nos côtés pour vous annoncer le temps de demain à 13h50 sur Bram FM. C'est le rendez-vous de la chronique en Limousin du Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
En ce début de mois de mars a commencé l'exposition « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » au musée de Rochechouart. C'est une exposition collective qui se tiendra jusqu'au 11 juin 2023. Avec moi Sébastien Faucon, directeur du musée de Rochechouart. Cette exposition, il y a un aspect féministe, un aspect écologique, un aspect sur le dada, un aspect sur la révolution de société, c'est plusieurs rêves qui s'entremêlent.
Oui, c'était vraiment l'idée de partir de ce titre poétique et politique, puisqu'il s'agit d'un slogan de mai 68, donc d'un slogan qui prônait une espèce de révolution et de manière de réinventer le monde, hein, donc dans tous ses aspects, qui a été réemployé par un compositeur célèbre qui s'appelle Vangelis, et qu'on utilise ici dans toutes ses dimensions, que ce soit le rêve, la métamorphose, la manière de réinventer la société, la place du corps, du corps féminin, effectivement des grandes préoccupations politiques, écologiques qui traversent notre société. C'était vraiment l'idée de faire un cheminement avec ces artistes, ces 25 artistes, pour parler, décrire le monde dans lequel on vit et inventer un monde pour demain. Donc on arrive dans un univers très coloré, figuratif, qui est en fait l'œuvre d'une artiste américaine qu'on voit assez peu en France, qui s'appelle Anton Ramsey. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver comme dans un rêve ou dans une salle qui aborde la question de la métamorphose, qui était aussi une des portes d'entrée pour ce titre. Ce titre un peu poétique et énigmatique, « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit ».
Il y a un fil rouge qui a été tiré avec la précédente exposition, c'est notamment la présence de Prince Golem dans votre collection et qui est aussi, il me semble, au deuxième étage.
Oui, en fait, il y avait aussi l'idée de mettre en lumière certains artistes avec lesquels le musée avait travaillé de manière plus ou moins récente, dont Prince Golem, mais on retrouve également des œuvres de Simone Fatal, de Caro Schneemann, de Laetitia Badeau-Haussmann, qui a été exposée en 2019. Donc c'est aussi comme un petit bilan aussi de la manière dont Rochechouart travaille, accueille, collectionne et montre toute une scène artistique.
Il y a également une part belle qui est faite à Raoul Haussmann, qui a terminé, on va dire, sa carrière à Limoges.
Oui, alors Raoul Haussmann est vraiment un artiste pionnier dans l'art du XXe siècle. Il a, on peut dire, inventé tout un pan de l'histoire avec le mouvement Dada, mais il a eu une carrière bien plus large que le mouvement Dada, qui est un mouvement qui apparaît à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1918-1920. Et le musée a, depuis son ouverture en 1985, constitué le plus important fonds français et le plus important fonds européen maintenant de son œuvre. On est ici dans une salle qui dialogue entre le début du siècle, le début du XXe siècle avec Raoul Haussmann et puis une autre artiste sur le grand mur qui est Joëlle de la Casinière. Et ici, on est plus dans le rapport poétique de l'art, c'est-à-dire que comment l'art peut s'émanciper, comment l'art peut réinventer la vie. Qui est un peu la continuité, ou en tout cas on déroule toujours ce fil par rapport à ce titre.
Également, l'exposition se concentre sur la poésie, et la poésie, quel que soit le langage, c'est une exposition internationale qui rend hommage un